Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc ce soir, dans le cadre de notre exposition autour du thème de l'alimentation, nous avons choisi d'évoquer le thème du cholestérol. En effet, c'est un sujet sensible. On voit beaucoup d'informations circuler sur le net ou à travers les médias, des informations contradictoires. Donc pour avoir un avis un peu plus éclairé sur la question, on a invité trois personnes. Donc je vais prendre de gauche à droite. Donc il y a Bernard Vercoustre, pardon, qui est secrétaire général de l'association ANET, Association nationale d'hypercholestérolémie familiale. Ensuite, nous avons donc le professeur Samuel Adjal, qui donc travaille au CHU de Poitiers et qui est donc plus spécialement spécialiste en endocrinologie. Et le professeur Luc Christian, qui est cardiologue au CHU de Poitiers. Donc, ils vont vous présenter. D'abord, on va commencer avec Bertrand Vercoustre, qui va donc nous parler de l'association. Et puis, vous pourrez poser vos questions. Voilà, il faut que ce soit une... On va plutôt privilégier les échanges. Voilà. Donc, je vous laisse la parole.
Bonsoir. Donc pour commencer, je me propose de vous présenter un petit film qui présente l'association.
Hypercholestérolémie familiale.
Hypercholestérolémie familiale.
Hypercholestérolémie familiale.
Alors moi, ça me dit rien du tout.
Après, familial, je vois pas trop ce que ça pourrait être.
Non, la notion de familial, je n'ai pas entendu parler.
L'hypercholestérolémie, oui. Alors après, familial, non. Je sais pas.
90% des personnes atteintes
ne sont pas diagnostiquées.
90%, bon, je croyais pas.
D'accord.
Donc, on l'est peut-être.
Oui, voilà, on l'est peut-être. Hein.
Le cholestérol a toujours fait partie de ma vie. J'entends parler du cholestérol depuis que je suis toute petite. Mes trois enfants n'ont pas eu de problème de santé petit. Ils ont grandi normalement. Et ils ont quand même été dépistés vers l'âge de 7-8 ans par un pédiatre qui était interpellé par mon taux de cholestérol. Les enfants ont grandi, ils ont quitté le nid, ils ont pris leur envol. Et Baptiste a commencé de difficiles études de médecine. Autant vous dire que quand on est en médecine, on ne pense pas du tout à sa santé, surtout quand on ne ressent rien et qu'on se sent bien. Il avait commencé un traitement à l'âge de 17 ans, qu'il a arrêté à l'âge de 18 ans quand il a commencé donc ses études difficiles. Le jour de sa rentrée en deuxième année, malheureusement, Baptiste a fait un malaise en amphithéâtre et il est mort d'un infarctus du myocarde le soir en rentrant chez lui, massif. Et jamais on pouvait penser qu'on pouvait mourir de cette maladie. Jamais, pas un seul instant, on a pensé qu'on pouvait... mourir si brutalement à cause de l'hypercholestérolémie familiale. On n'a jamais pensé que c'était une maladie si grave, y compris le corps médical autour de nous. Hein. Ça a été un choc pour tout le monde.
En fait, à la mort de mon petit frère Baptiste, qui avait 20 ans, j'ai pris conscience à quel point l'hypercholestérolémie, c'était une vraie maladie et qui devait être traitée. Donc depuis que je suis maman de Marie-Lou, étant donné que l'hypercholestérolémie, c'est aussi une maladie héréditaire, je réalise l'importance de la faire dépister dès le plus jeune âge pour qu'elle puisse avoir le meilleur traitement.
Mon médecin m'a dit, écoutez, vous avez de l'hypercholestérolémie familiale, il faut donc vous soigner et prendre des médicaments à vie. Ah bah, très bien, mais prendre des médicaments à vie, et si j'en prends pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'avait répondu d'une façon très nette, c'est très simple. À 40 ans, vous aurez une crise cardiaque. La vie se passe et j'arrive à 40 ans moins un mois. Et 40 ans moins un mois, effectivement, je fais une crise cardiaque et suivie d'un triple pontage. Donc la leçon à tirer, c'est que lorsqu'on est atteint de cette première maladie génétique qui existe au monde, à ce moment-là, il faut la prendre en main et se soigner absolument régulièrement.
J'ai trois enfants. Et sur mes trois enfants, deux ont du cholestérol héréditaire. Ils ont été dépistés très très tard, trop tard, à une vingtaine d'années. Là-dessus, je suis restée très en colère, très nostalgique de ce moment-là, parce que éduquer des enfants, c'est quelque chose d'hyper compliqué. On se pose 10 000 questions et on peut passer à côté de choses totalement essentielles. primordial. Et de cette colère, le désir est vraiment venu après le décès de Baptiste. Mes enfants avaient le même âge que lui. Et en rencontrant un endocrinologue qui me suivait, et me disait qu'une maladie n'est défendue que s'il existe une association de patients. Et à partir de ce moment-là, est née l'idée de créer cette association.
Le but, c'est vraiment de faire connaître et reconnaître la maladie, maladie génétique, qui est très répandue, qui est totalement méconnue et sous-diagnostiquée. Une autre raison d'être importante de l'association, c'est de prévenir des risques liés à l'hypercholestérolémie. Effectivement, on a des personnes qui sont atteintes de cette maladie très tôt, dès la naissance. On a aussi une information à faire aux praticiens, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de praticiens, de médecins libéraux, sont sous-informés par rapport à cette maladie, et souvent ont des patients qui sont atteints et ne sont pas traités comme il le faudrait.
L'hypercholestérolémie familiale est une des premières maladies génétiques au monde. Elle se soigne bien si elle est dépistée dès le plus jeune âge.
Nous avons tous un rôle à jouer. Alerter, informer, c'est déjà sauver des vies.
En parler autour de soi, c'est déjà sauver des vies.
Pour nos enfants, pour nos petits-enfants,
notre descendance,
pour ne plus jamais dire « si j'avais su ».
Voilà, donc vous avez déjà un bon aperçu de notre association. En ce qui me concerne, j'étais dans le film, donc vous connaissez mon histoire. Et je suis rentré dans cette association il y a un an, parce que juste avant, j'étais à la retraite. Je suis à la retraite depuis un an, mais juste avant, je bossais et j'avais un boulot trop prenant pour m'investir dans une association. Alors, l'association Annette, je vais vous la présenter, parce qu'on n'a quand même pas tout dit dans le film, mais retenez bien que ça s'écrit A-N-H-E-T. Retenez bien le sens, parce que quand vous allez sur Facebook ou quand vous allez sur Internet, vous trouvez ce film-là, par exemple, vous le retrouverez. Et donc, vous pourrez éventuellement dire aux personnes concernées, le faire voir aux personnes concernées. Alors maintenant, il faut que je fasse fonctionner ça. Il faut l'allumer. Vous savez où ça s'allume, c'est une bavette. En haut. Est-ce que ça ne marche pas bien ? Ah, c'est bon. Tac. Et voilà. Voilà, ça y est, c'est parti.
Son métier, oui.
Voilà. Donc la question, c'est de savoir si vous êtes concerné. Et donc, il y a quelques petites questions pour le dire. Est-ce que vous n'avez jamais dosé votre taux de cholestérol? C'est la première chose, hein. Il faut savoir si on en a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous avez une personne sur cinq qui a trop de cholestérol. Voilà. Donc on est 68 millions, ça fait qu'il y a 16 500 000 personnes qui ont trop de cholestérol. La deuxième question qu'on va se poser, nous, c'est est-ce que vous pensez faire partie d'une famille à risque? Et là, dans ces 16 500 000 personnes que je vous évoquais, il y en a 300 000 qui sont concernées par l'hypercholestérolémie familiale. On estime, c'est une estimation qui a été faite par des études anglaises qu'on a transposées en France, parce qu'en fait, tous les chiffres que je vous donne sont à peu près les mêmes en France et dans le monde. Après, si vous êtes jeune, est-ce que vous suivez un traitement? Et là, on dit c'est important parce qu'il y a des risques cardiovasculaires. Lorsque vous êtes atteint d'hypercholestérolémie familiale, vous multipliez les risques d'accidents cardiovasculaires par 13. Donc vous imaginez que je suis en train de vous parler, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quelque chose qui est à prendre simplement au sérieux. Est-ce que vous avez des médicaments adaptés? Et puisque c'est le thème d'aujourd'hui et qu'il y a énormément de controverses sur le sujet, ce que je peux vous dire, ce que nous disons très clairement au niveau de l'association, c'est lorsque vous êtes concerné par l'hypercholestérolémie familiale, que je distingue bien du reste du cholestérol. Et là, je laisserai les médecins se prononcer sur le sujet. Moi, je reste spécifiquement sur l'hypercholestérolémie. Lorsque vous en avez, on ne discute pas, on prend des médicaments. On a la chance d'être sur la première maladie génétique qui existe au monde. Elle n'est pas du tout connue, mais je peux vous dire absolument pas connue sous ce label-là. Mais c'est la première maladie génétique qui existe. Et on a la chance d'avoir des médicaments qui soignent. Alors après, on pourra en parler, mais il y a des tas de problématiques autour de ces médicaments, parce qu'il faut trouver le bon médicament. Moi, par exemple, et une fois que vous avez trouvé le bon médicament qui vous va, il faut le bon dosage. Mais on a des réponses, et ce que je peux vous dire en même temps, c'est que on a un avenir devant nous pour avoir les bons médicaments qui est en train de s'ouvrir, je ne dirais pas de jour en jour, mais c'est une maladie qui est prise très au sérieux et on a des solutions. Et puis, vous avez interrompu votre traitement. Est-ce que vous êtes conscient des risques? Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Dans le film, ce que je disais, c'est que c'est à 23 ans que j'ai découvert, grâce à ma grand-mère, d'ailleurs, qui en avait à l'époque 80 ans, et à 80 ans, elle découvre qu'elle a du cholestérol. Donc, elle demande à ses fils, et elle en avait 5, est-ce que vous êtes concerné? Ils font des analyses. Oui, oui, les petits-enfants derrière, ça suit. On est une famille ultra nombreuse, donc derrière, tout le monde regarde. Ah bah oui, on a du cholestérol. Donc moi, je vais voir mon médecin. Et puis c'est là où je lui dis, est-ce qu'il faut que je prenne des médicaments à vie? Vous voyez ce qu'il m'a dit. Et puis, il avait raison. Mais bon, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que depuis ces médicaments, je les prends. J'ai eu mon infarctus à 40 ans. J'ai aujourd'hui 63 ans. Je touche du bois. Je suis en pleine forme. Quand on fait et de l'exercice, qu'on est vigilant, je veux dire, ça se passe bien. Donc, c'est là que se passe la suite. Voilà. Alors, l'association, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est l'unique association en France des patients atteints d'hypercholestérolémie, qui est donc la première maladie génétique au monde. Elle a une caractéristique, c'est que c'est une maladie qui ne vous prévient pas. Moi, la veille de mon infarctus, j'animais une convention de 300 personnes. Je peux vous dire que j'étais en pleine forme. Je ne pensais pas. À l'époque, je faisais beaucoup de sport. Tout allait bien. Ça se passait bien. Et puis, du jour au lendemain, vous êtes attrapé par cette maladie. Donc, elle est bien silencieuse. Elle est très sous-diagnostiquée. Donc, notre problème, le problème de l'association, une des raisons pour lesquelles je me suis investi pour travailler dans cette association, et tous ceux, nous ne sommes que des bénévoles, bien sûr, c'est d'alerter les personnes que c'est très simple. Vous êtes hypercholestérolémie familiale ou pas? Il faut d'abord se faire les bonnes analyses. Et si c'est oui, il faut se soigner tout de suite. Voilà, on n'a pas le choix, il faut y aller dans ce cas-là. Voilà. Donc l'objectif, nous, c'est de favoriser l'échange avec les patients. C'est d'informer le public et les professionnels de santé pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de tous les patients dès le plus jeune âge. Et quand je vous dis les professionnels de santé, on a un rôle important avec les professionnels de santé parce que beaucoup de médecins ne font pas la distinction entre, par exemple, l'hypercholestérolémie et le cholestérol. Et quand je vous dis ça, on a fait une étude sur deux départements français où 50% des médecins faisaient la distinction entre l'hypercholestérolémie familiale et le cholestérol en général. Donc vous voyez qu'on a un rôle d'information. Alors, vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis, on ne le sort pas d'un chapeau. Nous sommes entourés d'un comité scientifique avec des professeurs qui soutiennent, qui nous encouragent, qui nous forment Et donc, c'est à ce titre-là qu'on se permet de vous dire ce que je vous dis. Donc, l'objectif, c'est aussi de transmettre l'information sur l'évolution des connaissances scientifiques et de la recherche médicale. On a la chance d'être dans un domaine où, il y a de réelles évolutions. Il y a aujourd'hui des nouveaux médicaments PCSK9 qui sont sortis. J'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a des nouveaux médicaments. Et puis, la recherche est très importante dans le domaine. Donc, et c'est également d'alerter les instances pour favoriser le dépistage et le traitement et les traitements adaptés. Alors, quand je vous dis ça, alerter les instances, en fait, nous, notre vœu, le plus cher, c'est de pouvoir intervenir auprès de la ministre et de lui dire, attention, on est en train de vous parler de la première maladie génétique au monde. Donc, quand est-ce qu'on va la prendre vraiment au sérieux ? Donc on a du boulot. Hein. C'est pas si facile que ça d'atteindre une ministre et puis de travailler. Voilà. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'hypercholestérolémie familiale ? Ben, c'est une maladie génétique qui est caractérisée par un taux de cholestérol LDL élevé dès la naissance, qui est transmis par un des deux parents. Alors vous entendrez souvent parler, lorsque il y a un parent, c'est des hétérozygotes. Lorsqu'il y a les deux parents, ce sont les homozygotes. Et donc là, vous imaginez, quand vous avez les deux parents, très souvent, ça engendre des taux de cholestérol qui sont extrêmement importants et donc plus graves, plus importants à soigner encore. Alors, les signes d'alerte, d'abord, c'est parmi les proches. Est-ce qu'on a des antécédents d'hypercholestérolémie familiale ? Est-ce qu'il y a dans la famille des antécédents d'accidents cardiovasculaires ? Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que quand j'ai eu mon infarctus, je vous évoquais le fait qu'on était une famille nombreuse, il n'y avait jamais eu d'accident. Donc, c'était silence radio. Bah, quand on se voyait dans les réunions de famille, on discutait. Oui, le cholestérol, ça va bien, mon cholestérol. Tu prends des médicaments ? Non, moi, ça me casse les pieds, j'en prends pas. Et tout. Et toi, hein. Par contre, le jour où j'ai eu mon infarctus, je peux vous dire que alors là, ça n'a pas traîné. Hein. Tout le monde fait les analyses. Toi, qu'est-ce que tu prends comme médicament ? Je prends ça. Bah, tout le monde. Tu as changé de médicament ? Oui, j'ai changé de médicament. Tout le monde a changé de médicament. Et tout. Voilà. Donc, voilà, c'est important de. Et alors, chez les patients, eh bien, un taux de LDL supérieur à 1,9. Moi, j'avais personnellement 4 lorsque j'ai fait mon infarctus. J'ai du mal à redescendre au-dessus du 1,9. Donc, je me soigne, comme on dit. Et donc, je pense que je vais rentrer dans la nouvelle génération des médicaments. Voilà. Et puis, des signes cliniques, donc des exanthomes... sur les doigts ou au niveau des arcades, vous avez des pustules, ou dans l'arc coronéen, vous avez des indications, mais ça, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Alors, pourquoi traiter ? La maladie non traitée peut entraîner des événements précoces. L'accumulation de LDL prédispose à des crises cardiaques, des AVC. Et pour les enfants, ce qu'on recommande, c'est de traiter la maladie à partir de 8-10 ans. Alors, en fait, c'est de bien savoir... beaucoup plus tôt si vos enfants sont concernés. Parce que si vos enfants sont concernés, déjà la première chose à faire, c'est de leur assurer une nourriture saine et équilibrée. Déjà de les entraîner à faire du sport. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est vrai pour tout le monde. Mais c'est encore plus vrai quand vous avez, pour tout le monde qui a du cholestérol. Voilà. Mais si vous êtes concerné par l'hypercholestérolémie, il faut y aller. Comment bien vivre avec son hypercholestérolémie familiale ? Voilà. Je pense qu'un des maîtres mots, c'est de garder une hygiène de vie saine. Bien s'alimenter, notamment par une alimentation variée et équilibrée. Bon, je ne vais pas vous faire la recette là-dessus. Vous avez, on en parle aujourd'hui de mieux en mieux dans la presse. C'est encore assez contradictoire, tout ce qu'on peut dire. Mais il y a quand même d'excellentes recommandations. Bouger. Pour les personnes, plus on vieillit, c'est pratiquer une activité physique, les sports adaptés, la marche, le jardinage. Et puis, surtout, arrêter de fumer. Arrêter de fumer. C'est hyper important. Ouais, alors, pour les enfants, ne pas commencer, bien sûr. Vous avez raison. Mais voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'avec l'hypercholestérolémie, vous avez 13 fois plus de risques d'accident cardiovasculaire. Quand vous fumez, vous avez 7 fois... plus de risques d'accidents cardiovasculaires. Donc vous imaginez celui qui a de l'hypercholestérolémie familiale et qui fume, ben vous faites la multiplication des risques et donc on est dans des cas extrêmement graves. Quand je vous dis ça, mon grand drame, c'est que j'ai une fille qui a aujourd'hui 32 ans et j'arrive pas à la faire arrêter de fumer. Moi, j'avais arrêté bien avant. une personne sur 300, soit environ 200, certaines fois vous verrez 300 000 personnes en France, souffrent d'hypercholestérolémie. On estime que 90% des personnes atteintes d'hypercholestérolémie ne sont pas diagnostiquées. Donc vous imaginez le travail que nous avons. En l'absence de, que nous avons au corps médical, hein, on travaille main dans la main. Et en l'absence de traitement, l'état des artères des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale à l'âge de 40 ans serait équivalent à celui de personnes âgées de 80 ans. Les pistes d'avenir. Alors, est apparu depuis 2 ans, à peu près, ce qu'on appelle le registre national. C'est un registre qui permet de recenser tous les patients qui sont atteints d'hypercholestérolémie familiale et qui sert de base à la recherche. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez des nouveaux médicaments, qu'on appelle les anti-PSCSK9, qui sont une nouvelle classe thérapeutique, qui sont capables de réduire de près de 60% le LDL cholestérol en plus d'un traitement par statine. Donc moi, personnellement, je vais bientôt y souscrire. Et puis, je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié avec, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, de nombreux projets sur l'hypercholestérolémie familiale sont en cours. Alors, notamment, un projet extrêmement important. Quand je vous dis un projet important, c'est... qu'il y a une cinquantaine de personnes, chercheurs, médecins de dans tous les domaines, qui recherchent des solutions spécifiques adaptées aux patients concernés par l'hypercholestérolémie. Et puis il y a un autre projet qui est intéressant parce que c'est un petit peu le sens de l'histoire. C'est un projet qui s'intitule le parcours de soins, qui est développé à Marseille, c'est-à-dire que je souhaite qu'on le développe sur Nantes et ils sont en train de bien y réfléchir. Et donc, nous, on est participants dans ce cas-là. Mais c'est vous êtes patient et plutôt que d'aller et une fois chez le médecin et une fois chez l'endocrinologue et une fois le cardiologue et une fois le je ne sais trop qui, vous prenez un seul rendez-vous et vous avez l'occasion de voir tout le monde. Voilà. Donc, c'est testé à Marseille et c'est au tout début. Donc, si ça marche bien... on ira plus loin. Voilà, l'organisation de l'association, nous sommes une association, comme je vous le disais, de bénévoles. On a un conseil d'administration, donc on est 5-6 personnes sur lesquelles on essaie de piloter les affaires. Et surtout, on a un conseil scientifique avec 3-4 endocrinologues qui nous conseillent, qui nous orientent. Voilà. Alors, par région ou par bassin, nous avons des ambassadeurs. Moi, par exemple, je suis ambassadeur des Pays de Loire, et donc Pays de Loire et Vendée. Nous recherchons des personnes qui seraient volontaires pour prêcher la bonne parole, telle que ce que je suis en train de faire, parce qu'on est une toute jeune association, et donc on recherche dans ce cadre-là des personnes. Voilà. Je vous disais que c'était pas qu'un problème français, hein, c'est un problème européen, c'est un problème international. Et donc, il y a des associations un peu partout dans le monde. Le week-end dernier, c'était le week-end de l'association européenne qui a lieu à Budapest. Donc là où tous les pays européens, toutes les associations des pays européens sont représentées. En ce qui nous concerne, nous, il y a un mois, nous avons fait notre première journée nationale. On était 130 personnes à Paris, donc on était contents de faire notre première. Voilà, donc vous avez compris quel était le sens de notre lutte. Et puis, notre enjeu, c'est pour nos enfants, pour notre descendance, ne plus jamais dire « si j'avais su ». Rappelez-vous ce qu'a dit la présidente. Elle a perdu son fils à l'âge de 20 ans qui débutait ses études de médecine. Voilà, donc l'objectif, moi j'ai eu une chance inouïe, je m'en suis très bien sorti, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, je vous remercie et je répondrai tout à l'heure et je vous laisse la parole à vos questions.
Bon, vous nous avez scotché là en fait. Personne n'ose rien dire. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole au sujet de l'intervention de M. Vercus ?
Moi, je suis complètement sidéré parce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'information sur ce problème des médecins. Vous, j'ai bien compris, vous avez dit que 50% d'entre eux n'étaient pas correctement informés.
Dans deux départements, on a fait une étude, et dans deux départements, oui, ils n'étaient pas correctement informés.
Bah, la première action à faire, c'est peut-être là-dessus.
Mais croyez bien qu'on est conscient, que les endocrinologues sont conscients. On fait partie, on est une émanation de la NSFA, qui est donc globalement une assemblée de médecins qui ont également exactement le même objectif. Mais ce n'est pas si simple que ça.
Voilà. C'est très inquiétant.
C'est une des raisons, je pense, qu'aujourd'hui vous entendez beaucoup de polémiques sur le sujet du cholestérol. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'échos de feu, j'aurais tendance à dire, qui vont vous dire prenez pas de médicaments, des choses comme ça. Mais il y a peu le contrepoids. Voilà. On entend peu le contrepoids. Mais donc, voilà, ça fait partie des deux grands axes. Hein. C'est faire de la prévention. Quand je vous parlais d'Agnès Buzyn, essayer d'intervenir avec elle pour faire de la prévention. Quand je vous dis ça, vous avez des pays qui sont très développés au niveau de la prévention. Nous, par exemple, notre taux de prévention en France est de 5%. Dans les pays tels que la Norvège et j'oublie un autre nom nordique, des pays nordiques, ils sont à 71% de prévention. C'est-à-dire qu'ils en ont fait un projet national. Et donc, toute la population a pris en charge la problématique. Et au moins au courant et soignée en conséquence. Nous, on a tout à faire sur le sujet. Voilà. Et à commencer, comme je vous disais, par, bien sûr, le corps médical aussi.
Si je peux faire un commentaire, moi, je pense que pour préparer la conférence de ce soir, en fait, j'ai travaillé hier soir assez tard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu le documentaire qui est passé en début d'année sur Arte, qui s'appelle « Cholestérol, le grand bluff ». Extrêmement intéressant. Et dans lequel il y a des choses qui sont exactes, des choses qui sont discutables et des choses qui sont fausses. Et dans les choses qui sont fausses, je pense que une des choses qui est fausse, c'est qu'on ne peut pas honnêtement nier le rôle de l'hypercholestérolémie familiale dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut, qu'il y a différentes formes de maladies, mais s'il y a une maladie où on ne peut pas raconter de crack, Eisenhower, il fumait comme un pompier, et quand il a fait l'infarctus du myocarde, c'était peut-être pas que le cholestérol qui était en cause. C'est vrai, mais Maxime, il est mort à 20 ans. Il est mort à 20 ans d'un infarctus. Donc Maxime, c'est pas Eisenhower. Hein. C'est un gars normal qui avait une maladie familiale qu'il ne connaissait pas. Cette maladie familiale s'associe avec un taux extrêmement élevé de cholestérol. Et donc, on peut raconter à peu près tout ce qu'on veut, mais je veux bien que les gens qui sont les plus agressifs sur la prise en charge du cholestérol aille dire les yeux dans les yeux à sa mère, tout ça c'est des conneries. Je ne peux pas entendre ça. Et je suis très heureux de votre venue ce soir parce que ça nous donne juste un argument pour discuter de façon un peu éduquée sur une maladie, sur les maladies cardiovasculaires au sens large. Mais il y a un moment où il faut arrêter, quoi. On peut dire n'importe quoi, et dans le reportage sur Arte, s'il y a une chose qui est fausse, c'est qu'on nous raconte que l'hypercholestérolémie familiale ne fait pas mourir les gens. Ça, c'est juste pas possible d'entendre ça. On peut avoir toute la discussion en population générale, mais le lien entre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, il est indéniablement issu de l'observation qu'on a des hypercholestérolémies familiales. Donc, après, on peut tout discuter, on peut discuter de tout un tas de choses, mais ça, on ne peut pas le discuter, à mon avis. C'est ça mon commentaire.
C'est très clair, avec des conséquences qui sont dramatiques. Hein. On l'a bien vu dans le film, et dans la vie courante cardiologique, on va dire, on est aussi interloqué par des patients jeunes pour lesquels le principal facteur de risque est l'hypercholestérolémie, souvent familiale, dans ce cadre-là, avec des taux très élevés avec des patients jeunes et des conséquences qui sont lourdes.
Oui, c'est assez simple comme situation. Donc, on va sans doute en reparler un tout petit peu plus loin, mais au fond, on est quand on se sait dans une famille où il y a du cholestérol ou dans laquelle il y a des événements cardiovasculaires qui interviennent tôt dans la vie. En gros, l'infarctus avant 40 ans, il y a forcément un problème. Il y a souvent du tabac, mais il y a souvent aussi un problème de cholestérol. Et les infarctus sans tabac, c'est toujours, ou peu s'en faut, des maladies très particulières dans lesquelles il y a souvent un cholestérol élevé. Et donc les circonstances, c'est une famille avec du cholestérol ou une famille avec des maladies cardiovasculaires précoces. On fait une prise de sang et sur cette prise de sang, on a des choses qui sont extrêmement caractéristiques et qui nous font dire oui, c'est une hypercholestérolémie. Et puis ensuite, on continue l'exploration et puis on arrive au diagnostic de l'hypercholestérolémie. Ça, il est fait avec la prise de sang et de son caractère familial, soit avec des approches dans les familles, soit avec des approches génétiques. Donc c'est assez simple, ces prises de sang.
Allez-y.
Pardon, attendez. On enregistre, donc on va venir avec le micro, c'est juste pour...
Par rapport à la relation entre le cholestérol et l'infarctus, on peut faire aussi un infarctus sans que le cholestérol soit... un facteur,
oui, c'est vrai, oui.
Ce qui a été mon cas récemment. Et par contre, maintenant, on me traite contre le cholestérol, oui. Sans qu'avant, j'ai eu un taux de cholestérol élevé. Or, maintenant, je me retrouve à prendre des statines, oui. À un taux relativement élevé, tout simplement parce que, dans mon cas, il ne faut pas que mon taux de cholestérol dépasse 0,7. Voilà. Et donc, on ne peut pas atteindre ce taux-là sans médicaments, de toute façon. Donc, je suis destinée à prendre toujours maintenant des statines, alors qu'au départ, je n'avais pas de cholestérol.
Oui, et au départ, vous n'aviez pas d'infarctus.
Non, mais...
C'est surtout qu'au départ, vous n'aviez pas d'infarctus.
J'avais pas d'infarctus, bien sûr. Enfin, j'ai fait un infarctus après. Et à partir de là, on m'a donné des médicaments contre le cholestérol.
En fait, merci, mais... madame. Est-ce que, Luc, tu veux répondre ou...
Bah, vas-y, t'as bien lancé.
Donc je suis tout à fait sensible à ce que vous nous dites, en ce sens que... Il y a deux aspects. Premièrement, toutes les personnes qui ont une hypercholestérolémie familiale ne font pas toutes un infarctus. Et toutes les personnes, et une personne même, sans avoir un taux extraordinairement élevé de cholestérol, ne va pas, peut faire un infarctus. Autrement dit, on est dans une situation où on n'est pas dans une maladie où on a un déterminisme absolu. Toutes les hypercholestérolémies familiales ne feront pas un infarctus. Et toutes les personnes ayant fait un infarctus n'ont pas forcément un taux de cholestérol si élevé. Mais l'hypercholestérolémie familiale nous donne indiscutablement un argument très fort pour comprendre qu'il y a une relation, ça ne veut pas dire une relation directe, absolue et impossible à contourner, entre le cholestérol et l'infarctus. Donc, on va revenir, je pense que Luc...
C'est un peu la même chose que pour le tabac. Il y a des gens qui vont fumer toute leur vie, qui ne feront jamais d'infarctus. C'est pas pour autant que si on prend l'ensemble de la population, plus vous fumez, plus vous avez un risque d'infarctus. Ça, c'est relativement démontré actuellement. Après, pourquoi est-ce qu'on fait un infarctus lié avec le cholestérol? Parce que lorsque vous avez une plaque d'athérome, il y a souvent du cholestérol à l'intérieur de cette plaque. Le fait qu'il y ait une mise en... communication de l'intérieur de la plaque où il y a du cholestérol avec le sang circulant, ça fait un caillot. Et le caillot, ça fait une occlusion de l'artère. Et une occlusion de l'artère, c'est un infarctus. Donc, il n'y a pas simplement des relations chiffrées entre les problèmes. Il y a aussi des explications physiopathologiques qui nous disent que, effectivement, il y a un lien de causalité entre les deux.
Si vous en êtes d'accord, je vais vous présenter quelques données qui me semblaient intéressantes parce qu'elles sont complémentaires, récentes. Elles ont un caractère un peu nouveau et je suis assez heureux de les partager avec vous. Donc, le premier point, c'est que je voudrais mentionner ici quelque chose qui s'appelle ma déclaration d'intérêt. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est extrêmement important. Ce tableau-là vous indique que j'ai reçu de l'argent de la part d'industriels pour parler, pour participer à des travaux d'expertise scientifique, pour voir des malades dans des études, que j'ai été invité à des réunions et que j'ai même été soutenu pour réaliser de la recherche. Et donc, mon rôle d'expert s'associe au fait qu'il y a des laboratoires qui sont intéressés pour que je travaille avec eux pour développer un certain nombre de choses. Et j'ai reçu de l'argent pour ça. J'ai déclaré cet argent, j'ai rien volé, je vous rassure. Je l'ai déclaré aux impôts, bien sûr, mais pas que. Je l'ai aussi déclaré aux autorités de santé, je l'ai déclaré aux doyens, à chaque fois que j'ai été payé pour travailler dans ce cadre-là. Et vous avez ici toute la liste des laboratoires avec lesquels j'ai travaillé. Et j'ai travaillé avec un certain nombre de laboratoires, ici Merck Sharp-Dohme, MSD, ou ici AstraZeneca BMS, ou Sanofi. Et ces laboratoires-là, ils travaillent dans le cholestérol. Et donc, il est important que vous sachiez que j'ai déjà travaillé avec des firmes et que mon sentiment, c'est que ça n'a pas altéré ma capacité à vous raconter des choses, mais l'important, c'est que je vous l'ai dit. C'est que vous soyez au courant que j'ai fait ça. Donc c'est permis, c'est important, et ce qui compte, c'est que ce soit transparent. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous montrer cette plaque-là.
Tu n'as pas d'action.
Je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action.
C'est pas précisé. Là.
C'est pas précisé. Je pourrais en avoir, mais je n'en ai pas. Je ne suis pas très branché sur les actions. Ce n'est pas tout à fait mon truc. Mais voilà un peu ce point-là. C'est un point important parce que dans les débats qui sont associés à la discussion sur les médicaments au sens large, sur les experts au sens large, il y a cette question-là que vous, grand public, vous devez comprendre et vous devez... Vous devez absolument intégrer. Et je ne suis pas dans le canard enchaîné, mais je suis exactement comme beaucoup de mes collègues, par exemple Luc Christians, vis-à-vis de nos relations avec les industriels. Donc c'est permis, c'est possible, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on vous le dit. Donc c'est transparent. Soit dit en passant, cet élément de déontologie qui me semble extrêmement normal, c'est un élément de déontologie que n'ont pas les journalistes aujourd'hui en France. Ils l'ont dans d'autres pays, mais ils ne l'ont pas en France. Et c'est un problème. Donc je voulais vous parler de deux choses. D'une part, d'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est juste, en gros, les statistiques et puis essayer de comprendre ce qui va avec quoi. Et puis, le risque cardiovasculaire et puis comment on l'apprécie. Et là, on va revenir aux questions qu'on a mises en avant tout à l'heure. Donc... rapidement, là, cette donnée d'épidémiologie, je vais revenir sur deux points. Une question qui a été examinée dans le courant des années 2000, qui a été de dire, est-ce qu'on manque tant que ça d'informations sur l'infarctus du myocarde ? Est-ce qu'il nous manque tant d'informations médicales que ça ? Dans ces années-là, on a dit, oui, en fait, l'infarctus, on ne comprend pas tout, et avec les facteurs de risque que l'on connaît, il nous semble que l'on a des informations bien claires que sur 50% du risque. Autrement dit, il y a la moitié des infarctus dont on ne comprend pas bien le mécanisme et dont on ne comprend pas bien les raisons. Et donc, il y a une première étude qui a été réalisée qui s'appelle l'étude Interheart et dont je vais vous parler et que je vais essayer de détailler. Et puis, de façon plus récente, il y a eu une autre approche qui a dit « Bon, ben, toutes ces approches-là sont intéressantes ». Mais on veut bien comprendre ce qu'il en est des gros problèmes de santé parmi lesquels, en premier lieu, les maladies cardiovasculaires et la mort toute cause au sein de grandes populations qui ne sont pas celles qu'on étudie tout le temps. Et cette étude-là, c'est le programme PURE, c'est P-U-R-E, mais c'est de l'anglais, donc je le prononce à l'anglais si vous voulez bien. Et dans ce programme-là, eh bien on va voir que la question, notamment... de la nutrition et du risque cardiovasculaire a été examiné de façon assez intéressante. Donc, rapidement, le programme Interheart, ce programme-là avait comme objectif de dire on sait des choses, mais au fond, ce qu'on sait sur l'infarctus du myocarde vient beaucoup d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais au fond, la population mondiale, ce n'est pas juste Europe-Amérique du Nord, et donc il nous faut connaître plus d'informations dans le reste de la population, le reste de la population mondiale, d'une part, et d'autre part, il faut qu'on soit sûr si ce qu'on connaît déjà explique effectivement 50% de nos connaissances sur les facteurs de risque d'infarctus, ou alors explique plus. Alors voilà la façon dont les choses ont été faites. Des sujets qui ont présenté un premier épisode d'infarctus du myocarde ont été considérés dans plein d'endroits du monde, et on va le voir. Et on a associé à ces sujets-là des gens qui étaient de même sexe et qui étaient à peu près à 5 ans près de même âge, qui étaient issus à peu près des mêmes endroits. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de les évaluer du mieux possible d'un point de vue de leur examen. Où est-ce qu'on a fait cette étude-là ? Dans plein d'endroits. Si vous cherchez la France, vous ne la trouverez pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, cette étude-là, il y avait une volonté forte de ne pas la réaliser dans les pays où on connaissait déjà les informations sur l'infarctus du myocarde. Donc il y a très peu de pays conventionnels, il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est, il y a beaucoup de pays d'Asie, il y a beaucoup de pays d'Afrique et d'Amérique latine. Alors vous voyez l'Allemagne, vous voyez la Grèce, mais vous voyez aussi le Guatemala, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Israël. Vous avez des pays que vous ne voyez pas souvent, quoi, hein, le Mozambique, le Népal, tout ça, c'est des pays dans lesquels on a peu d'informations médicales, et c'est pour ça que cette étude a été pensée. Alors, quand on regarde région par région, et je vous prie de m'excuser parce que la diapo ne passe pas, vous avez en fait 2% des personnes étudiées qui viennent d'Amérique du Nord et 5% qui viennent d'Europe, d'Europe occidentale. Hein. Vous avez vu un petit peu Italie, Grèce, Allemagne. Et donc, la majorité de la population de l'étude Interheart, c'est une population qui vient de partout dans le monde, mais pas des endroits où on a d'habitude les informations. Qu'est-ce qu'il en est ici ? Eh bien, on voit une population dans laquelle l'âge moyen de ce premier infarctus, c'est quelque part entre 50 et 60 ans. C'est ici 55 ans pour les hommes et c'est un peu moins de 65 ans pour les femmes. Et vous aurez toujours cette espèce de différentiel d'âge de 10 ans entre ce qui se passe chez les hommes et ce qui se passe chez les femmes vis-à-vis du risque d'infarctus du myocarde et de façon plus large de maladies cardiovasculaires. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a ici le taux de graisse dans le sang. Et ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont pris le mauvais cholestérol, le bon cholestérol et qu'ils ont fait le rapport des deux. Mais à la fin, ce résultat-là, là, APO-B sur APO-A1, c'est un tout petit peu technique, mais ça raconte juste le rapport du mauvais sur le bon cholestérol. Plus c'est bas, plus votre risque lié aux lipides est faible. Et là, plus c'est fort et plus vous êtes avec un taux de graisse dans le sang qui est élevé, de mauvaise graisse dans le sang, disons. Et ce que vous voyez, c'est que le risque d'avoir un infarctus par rapport au risque d'être sans infarctus augmente d'autant plus qu'on a ce rapport qui augmente. Le message, il est que plus votre quantité de graisse dans le sang, de mauvais cholestérol dans le sang est élevée, plus votre risque d'infarctus grandit. Il y a d'autres relations, et notamment ici avec le tabac. Et donc vous avez ici les gens qui ne fument pas, puis vous avez les gens qui fument 1 à 5 cigarettes par jour. Bien, les gens qui fument 1 à 5 cigarettes par jour, ils ont plus de chances d'appartenir aux gens du groupe qui a fait l'infarctus qu'aux gens qu'on a pris et qui se ressemblaient avec sexe, âge et zone géographique équivalente. Et c'est important parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai une cigarette plaisir. » Ah ouais, et t'as un infarctus plaisir aussi. Donc le truc, il est là au fond. Hein, ce point-là, il est important. Il y a effectivement des gens qui ont une consommation de tabac qui est faible et qui se demandent dans quelle mesure ils sont à risque ou pas. Mais la réponse, c'est dès qu'on est à plus qu'une cigarette par jour, on augmente son risque et ici, on l'augmente de façon assez conséquente. Avec cependant une relation qui dit que plus on fume et plus le risque est fort. Mais ce risque commence dès des consommations extrêmement faibles. Un des éléments de réponse, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on sait de notre risque d'infarctus ? Eh bien, l'étude Interheart, elle a raconté une chose importante qui est que on a, avec 9 facteurs de risque que je vais détailler ici, 90% de l'information du risque d'infarctus. Alors ces facteurs sont les suivants.
le taux de graisse, le tabac, le diabète. C'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Il se trouve que je suis diabétologue, je ne pouvais pas vous épargner ça. L'hypertension artérielle, l'obésité abdominale, ça veut dire est-ce qu'on a un gros ventre ou un petit ventre, si vous avez une taille de guêpe ou si vous avez un gros bidon. Des facteurs psychosociaux, la consommation de fruits et de légumes, l'exercice physique et l'alcool. L'alcool ici ayant un rôle protecteur. Alors voilà ce qui se passe quand vous additionnez les facteurs du risque. Oui, oui, c'est protecteur avec une quantité bien connue. C'est-à-dire que prendre 2 à 3 verres d'alcool pour les hommes, 1 à 2 verres pour les femmes, s'associe à la réduction la plus importante du risque d'événements cardiovasculaires. Ceux qui boivent moins que... ceux qui boivent 0 alcool pour les hommes sont à plus fort risque que les hommes qui boivent 2 verres de vin par jour. Et à l'inverse, les hommes qui boivent 4, 5, 6 verres sont à plus fort risque d'événements cardiovasculaires que ceux qui boivent que 2 à 3 par jour. On peut le moyenner par semaine pour les gens qui ont une consommation d'alcool plus irrégulière. Donc, voilà. Et donc ce que l'on voit ici, c'est que lorsque l'on prend le tabac, le diabète, l'hypertension, les lipides, et qu'on mélange tout ça, eh bien, on a une augmentation très sensible du risque d'être avec un infarctus. Et puis à l'inverse, quand on voit les choses de façon beaucoup plus satisfaisante, et qu'on dit, si on est non-fumeur, qu'on mange des fruits et légumes, qu'on fait de l'exercice, qu'on boit un peu d'alcool, et qu'on mélange tout ça, eh bien on diminue, on divise ici par 4 ou par 5 le risque de faire un infarctus. Autrement dit, les choses ne sont pas toutes négatives, on peut aussi voir les éléments positifs de cette étude qui lie l'infarctus. Je vais aller un petit peu vite ici pour raconter que la modification du style de vie, le fait d'avoir une vie saine, entre guillemets, même si le terme est probablement pas très heureux, est un peu variable selon les régions du monde, mais je ne vais pas prendre trop de temps pour aller là-dessus. Et je vais arriver au programme PURE, qui est un programme extrêmement important parce qu'il est paru en août et septembre 2017 et que d'une certaine façon, il permettait d'aborder des questions qui ont été, à mon avis, clairement mises en avant dans le reportage de Arte, dont je vous disais qu'il m'avait servi pour une part de fil conducteur pour préparer cette soirée. Donc ce programme-là avait comme objectif de comprendre, là encore, de décrire les maladies et la santé sur le plan des événements cardiovasculaires, de la mort non cardiovasculaire, de la mort cardiovasculaire et de la mort toute cause. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je vais essayer de détailler ça. La mort cardiovasculaire, c'est que si vous faites un infarctus et que vous en mourrez, on appelle ça une mort cardiovasculaire. C'est que l'origine directe de votre mort, c'est un problème cardiovasculaire. Si à l'inverse, vous avez un cancer du pancréas, on admet que ça n'est pas une cause cardiovasculaire et on range ça dans les morts non cardiovasculaires. Donc les morts cardiovasculaires, c'est les infarctus, les insuffisances cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations. Les morts non cardiovasculaires, d'une certaine façon, c'est un petit peu tout le reste. Et donc la question, ça a été de dire, est-ce qu'on peut comprendre la relation entre ces facteurs de risque pour la santé et la mort toute cause, les événements cardiovasculaires et les causes de mort, qu'elles soient cardiovasculaires ou non cardiovasculaires, et ce, là encore, en ne considérant pas seulement l'Europe et l'Amérique du Nord, pour lesquelles on connaît pas trop mal ces informations-là, mais d'aller chercher ça avec l'idée que si on trouve les mêmes facteurs qui exposent aux mêmes risques dans des populations très différentes, c'est un argument fort pour penser qu'ils sont vraiment associés avec ce que l'on pense. Et les populations étudiées étaient âgées de 35 à 70 ans au début du suivi, et on a suivi ces gens-là, donc on les a bien identifiés, bien examinés au départ, et puis on les a réexaminés à 3 ans, 6 ans et 9 ans, et en médian, ils étaient suivis pendant 7,4 années. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont morts après 2 ans, 5 ans, 6 ans, et que tout le monde n'a pas pu, malheureusement, être suivi pendant les 9 ans, et certains ont pu changer de région, ont été perdus de vue, n'ont pas pu être convoqués. Et le fin mot de tout ça, c'est que une des questions, c'était d'examiner cette situation de relation entre les facteurs de risque cardiovasculaire et les événements de santé dans des pays riches, et les pays riches ici, c'était le Canada, la Suède et les Émirats arabes unis. Là encore, une approche vraiment mondialisée pour ne pas qu'on ait toujours les mêmes informations qui viennent toujours des mêmes pays. On avait 11 pays qui étaient considérés comme de revenus moyens, notamment le cône sud, Argentine, Brésil, Chili, mais aussi Chine, Iran, Malaisie, les territoires occupés palestiniens, la Pologne, l'Afrique du Sud ou la Turquie. Et puis 4 pays avec des bas niveaux de revenus, Bangladesh, Inde, Pakistan et Zimbabwe. Et donc vous voyez dans ce programme-là qu'on avait une approche qui nous change un petit peu de ce qui est, réalisé de façon usuelle. Et donc la première étude qui est rapportée, c'est l'étude Pure sur l'activité physique. 130 000 personnes quand même hein, dans ces 17 pays-là. Donc on n'est pas dans une étude avec quelques personnes. C'est vraiment une étude où il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de médecins impliqués pour examiner correctement les gens. Et à la fin, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on compare ici les personnes avec un faible niveau d'activité physique, niveau d'activité physique modéré ou niveau d'activité physique fort, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Premièrement, vous avez plus de chances d'être diabétique quand vous avez une activité physique faible. Vous êtes à risque intermédiaire quand vous avez une activité physique intermédiaire. Et vous êtes à risque de diabète plus faible lorsque vous avez une activité physique élevée. C'est exactement la même chose pour ce qui est de l'hypertension. Vous avez d'autant plus d'hypertension que vous avez peu d'activité physique. Et par contre, il y a une histoire qu'on pourra reprendre sur l'histoire familiale de problèmes cardiovasculaires qui est plus fréquente chez ceux qui ont une activité physique plus forte. Alors, est-ce que les gens se mettent à l'activité physique pour essayer de compenser leur histoire familiale? C'est une hypothèse et là, on ne peut pas bien répondre. Ce que l'on voit ici, c'est que l'activité physique dite récréationnelle, c'est un terme anglo-saxon, mais en fait, c'est l'activité physique de loisir, est associée aux événements de santé de façon équivalente à l'activité non récréationnelle. C'est-à-dire, quand vous êtes au Zimbabwe, votre truc, ce n'est pas forcément d'aller à la salle de sport pour courir sur un vélo ou pour courir sur un tapis roulant. Voyez. Vous avez d'abord à travailler et vous avez un travail qui est physique. Eh bien, la réponse, c'est que votre travail, aussi bien que votre activité à la salle de sport, se conjugue de façon équivalente pour être un élément favorable. Ce que vous voyez là, c'est que l'on considère la mort toute cause, les événements cardiovasculaires majeurs, la relation est la même. Plus vous avez d'activité physique, et moindre est votre risque d'événements de santé. On le voit ici, c'est trop petit, j'insiste pas sur ce point-là. Et on le voit ici, la relation entre la mort et la quantité d'activité physique réalisée par semaine, elle n'est pas tout à fait linéaire, c'est-à-dire que si votre risque, quand vous faites peu d'activité physique, votre risque d'événement de santé, il est là, plus vous faites d'activité physique et plus votre risque va être réduit. Donc autrement dit, quand le PNNS nous disait « mieux manger, mieux bouger », le côté « mieux bouger », il est tout à fait clair ici. Et ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet plafond. Il n'y a pas un moment où faire 3 heures ou alors 5 heures de sport, c'est la même chose. 5 heures, c'est un petit peu mieux que 3 heures. Mais 3 heures, c'est mieux qu'une heure. Et une heure, c'est aussi mieux que 30 minutes. Donc si vous ne savez pas quoi faire en rentrant, vous laissez votre voiture ici, vous rentrez chez vous à pied, vous reviendrez la chercher demain. Donc la conclusion, c'est l'activité physique s'associe à un risque réduit de mort et d'événements cardiovasculaires dans toutes les régions du monde. Et ce que l'on considère de l'activité physique de loisir ou de l'activité physique professionnelle. Voilà le deuxième élément du programme Pure qui concerne les fruits et légumes. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants parce que ça nous montre comment avoir un style de vie intéressant en termes de risque cardiovasculaire. Eh bien, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que plus vous consommez de fruits et de légumes, et votre risque de base est lié à votre statut socio-professionnel, en quelque sorte. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on consomme d'autant plus de fruits et de légumes qu'on a été loin dans les études. Ça ne veut pas dire que les études vous ont appris à manger des fruits et des légumes. Ça veut souvent dire que vous avez des moyens financiers qui vous permettent de plus facilement acheter des fruits et des légumes. Parce que vous gagnez mieux quand vous avez été plus longtemps à l'école. C'est juste les grands chiffres qui disent ça. La deuxième chose que disent ces chiffres, c'est que vous avez d'autant plus de chances de manger peu de fruits et légumes que vous êtes fumeur et que vous êtes, et on vient de le voir, avec une activité physique faible. Donc ceux qui ont plus d'activité physique sont ceux qui mangent bien des fruits et des légumes. Et donc vous voyez bien ici qu'on est avec quelque chose qui est une modification globale du style de vie dont il faut tenir compte pour pouvoir interpréter l'effet spécifique de la consommation de fruits et de légumes. Mais à la fin, ce que l'on voit, c'est que plus on consomme de fruits et de légumes, et plus la mortalité cardiovasculaire est réduite. Cette flèche-là qui va dans ce sens-là, ça dit qu'on a moins d'événements. Ici, pour la mortalité non cardiovasculaire, et notamment la question, c'est les cancers, qui est, avec la maladie cardiovasculaire, la très grande cause de mort dans nos sociétés. Et c'est vrai aussi, vous le voyez, dans des pays à niveau socio-économique très varié, plus vous allez consommer de fruits et légumes, plus vous allez réduire votre mort non cardiovasculaire. Et de façon pas surprenante, plus vous allez réduire votre mort toute cause. Alors l'idée n'est pas de passer trop de temps là-dessus. Le message, il est très clair. Il est que on a un bénéfice pour la santé dès que l'on se met à avoir une consommation même modeste de fruits et de légumes. Et ces éléments-là sont importants, notamment quant à donner des recommandations. C'est-à-dire que la recommandation 5 fruits et légumes par jour que nous avons dans nos sociétés, elle est valable pour nos sociétés, elle est pertinente pour nos sociétés, mais que même dans des pays pauvres dans lesquels il n'y a pas possibilité de s'acheter 5 fruits et légumes par jour, si vous pouvez vous acheter des fruits et des légumes tous les jours, c'est mieux que d'en avoir peu. Autrement dit, augmenter sa consommation de fruits et de légumes, c'est une bonne approche pour réduire son risque cardiovasculaire. Et puis il y a un troisième papier de l'étude de ce grand programme Pure qui concerne les hydrates de carbone, c'est-à-dire les sucres, et les graisses. Et celui-là, je vous garantis qu'il est intéressant, notamment par rapport à une des thèses qui était développée dans l'émission d'Arte, là, le cholestérol, le grand bluff, qui disait qu'il y avait une stratégie de communication maîtrisée qui disait que les industries agroalimentaires intéressées par le sucre avaient essayé de détourner l'attention vers le gras et le cholestérol. Et ben, ici, des données qui datent de 2017 sont à prendre avec une certaine prudence, mais en même temps supportent globalement le fait qu'on a souvent mis en avant l'effet néfaste de la consommation de graisse par rapport à la consommation de sucre. On va voir que ce n'est pas si évident que ça. Alors comment on va le voir? On va le voir que ici, vous avez la quantité d'énergie tirée de graisse. Plus vous allez vers la droite, plus vous consommez de graisse. Et ce que vous voyez, c'est que votre risque de mourir diminue au fur et à mesure que vous consommez du gras. Bah ouais, moi aussi, ça m'a fait un peu bizarre, mais c'est ce que dit l'étude Pure, et c'est la même qui avait raconté que c'était bon de faire du sport, et c'est la même qui avait raconté que c'était bon de manger des fruits et des légumes. Deuxièmement, le risque d'événements cardiovasculaires. Là encore, le fait de consommer plus de graisse s'associe à une réduction du risque. Vous allez me dire, oui, mais consommer plus de graisse, ça veut dire que je vais consommer moins d'autres choses, puisque là, c'est la part de ma quantité de calories qui vient du gras ou qui vient d'autres choses. Eh bien, c'est là où il faut regarder de l'autre côté, ici, là. Et là, on a l'énergie qui vient du sucre, des hydrates de carbone. Et ce que vous voyez, c'est que le risque de mort toute cause, il augmente, pas de façon directe, mais il augmente avec un effet seuil. Et il y a un moment où quand votre énergie elle vient pour 60 ou 65% des hydrates de carbone, plus vous mangez des hydrates de carbone et plus votre risque de mourir augmente. Et c'est vrai aussi pour les événements cardiovasculaires. Et ce truc-là, ça a été une vraie surprise, ça a été quelque chose d'un peu inattendu, qui s'explique par certains aspects, notamment le fait que le mauvais cholestérol est en fait assez peu diététique dépendant, mais ces données-là me semblaient extrêmement intéressantes dans notre capacité à comprendre la relation entre notre environnement, plus ou moins maîtrisé, et les maladies cardiovasculaires. Alors ici, il y a une stratégie qui a été mise en avant où on a dit qu'est-ce qu'on ferait si on remplaçait des sucres par du gras et certaines formes de gras. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certaines graisses qui sont les acides gras polyinsaturés. C'est un peu technique, mais au fond, c'est plutôt des huiles complexes qui s'associent à une réduction de l'événement mort toute cause. Ça veut dire que si on est capable, chez ceux qui mangent beaucoup de sucre, de remplacer ce beaucoup de sucre par des graisses, par exemple huile d'olive, eh bien, on arrive avec un effet sur la mort toute cause. Cet aspect-là des choses n'est pas la preuve, c'est simplement ce que manipuler les chiffres issus de ces grandes données nous permet d'imaginer. Ça n'est pas une preuve. Et ici, sur la mortalité non cardiovasculaire, donc la relation, elle est aussi intéressante vis-à-vis du cancer, par exemple. Si vous remplacez votre sucre par des protéines, il ne se passe pas grand-chose. Si vous remplacez votre sucre par des acides gras polyinsaturés, il ne se passe pas grand-chose pour la mort cardiovasculaire, mais pour la mort non cardiovasculaire et notamment pour la question du cancer, vous voyez que remplacer par ces graisses un peu complexes a un intérêt. Donc l'idée, c'est qu'on a probablement un intérêt à réfléchir à la levée des restrictions qu'on a sur la consommation de graisses et qu'on a par ailleurs un intérêt à réfléchir à réduire les consommations élevées de sucre pour les remplacer si possible par des consommations au moins minimum de certaines graisses et notamment de graisses végétales. Je vais aller vite pour dire, je vais pas avoir beaucoup de temps, mais à la fin, le message et sa réponse, je l'espère, à une des questions qui a été posée, c'est quand est-ce qu'on doit rechercher ce cholestérol trop élevé dont on a montré qu'il s'associait au risque d'infarctus. La réponse, c'est quand on a un problème cardiovasculaire et à partir de 40 ans chez les hommes et 50 ans chez les femmes, ou à partir de la ménopause chez les femmes. Et si tout est bien, on ne refait pas le bilan avant 5 ans. Et on peut parfaitement avoir des problèmes de santé malgré ça, mais c'est comme ça que l'on est dans une situation où l'on peut au mieux identifier les problèmes de maladies cardiovasculaires. Et le professeur Christians vous racontera sa vision du traitement de cette partie-là. Du moins, c'est ce qu'il m'avait dit qu'il ferait.
S'il a envie,
voilà. Merci de votre attention.
Peut-être des questions, non ?
Ah, je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui,
vous avez. Ah, je vous en prie, monsieur.
Des questions.
Pourquoi il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol ?
C'est intéressant. Et la réponse, c'est parce que le cholestérol, il est important au niveau de la cellule. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. On utilise le cholestérol de la même façon. Mais par contre, la façon dont on le transporte vers les cellules ou dont on le ramène depuis les cellules, la structure qui permet d'aller vers les cellules ou de ramener depuis les cellules n'est pas la même. C'est comme si vous disiez, pour aller à la mer, je prends le bus, et pour revenir de la mer, je prends une mobylette. Et que vous n'aviez pas du tout le même risque d'avoir un accident de bus et un accident de mobylette. Ici, quand vous allez apporter du cholestérol avec une lipoparticule qui s'appelle LDL, vous êtes avec un bus à très fort risque de vous donner des problèmes. Et quand vous revenez depuis la cellule vers le foie, vous ramenez votre cholestérol avec un autre moyen de transport qui s'appelle HDL. Ce moyen de transport est un moyen de transport très sûr et ne s'associe pas à une augmentation du risque. Donc il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol parce qu'ils ne sont pas du tout transportés de la même façon et qu'à la fin, ils se comportent très différemment sur le vaisseau.
Tu veux aller sur cette partie-là ? C'est tout à fait ça.
Dis-nous ce qu'ils font sur le vaisseau, Luc, s'il te plaît. Alors, c'est une bonne question. On peut faire... Alors, il y a des mesures qui ont été notées là qui favorisent le fait de faire plutôt du bon. C'est de l'activité physique, c'est les fruits et légumes. Ça fait plutôt monter le bon cholestérol. Mais le point important, c'est que, vous le verrez, ce qui compte pour réduire le risque cardiovasculaire, c'est avant tout de faire baisser le mauvais. Et les stratégies d'augmentation du bon n'ont pas été très efficaces pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires.
Attendez, deux,
Là, c'est le transport dans un sens du foie aux cellules et l'autre, c'est le transport des cellules au foie. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre parce qu'il y a s'il y a un aller, il y a un retour.
S'il y a un aller, il y a un retour, mais en fait, la cellule, elle est aussi impliquée. C'est-à-dire que la façon dont la cellule va dire « j'ai besoin de conserver du cholestérol » est importante. Donc, il peut très bien y avoir un aller et un retour qui ne se fait pas de la même façon. Donc, à la fin, le message, c'est on n'utilise pas du tout le même moyen de transport pour aller du foie vers les cellules et pour aller des cellules vers le foie. Et c'est pour ça qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol, parce qu'ils utilisent des moyens de transport différents.
D'accord. Si je peux me permettre une seconde question. Dans les tableaux que vous nous avez montrés, j'étais frappé par l'absence des céréales.
Alors, les céréales, elles sont souvent comptées dans les films, dans les hydrates de carbone.
Alors, elles sont comptées
dans les hydrates de carbone. D'accord. Mais vous avez raison, ces papiers-là sont sortis depuis peu de temps. Hein. On a ces papiers depuis 2 mois. Et l'analyse très raffinée, sans mauvais jeu de mots, de la composition des sucres, de la composition des graisses, n'est pas encore suffisamment précise, mais elle dépend des endroits du monde. Et on va travailler là-dessus. En tout cas, ces gens-là, faites leur confiance. Ils seront capables de nous répondre bien précisément sur quel aliment particulièrement peut être associé avec quelle augmentation spécifique du risque. Parce que quand on dit le sucre, est-ce que le riz, c'est la même chose que le sucre en poudre? Pour l'instant, on mélange tout. Mais voilà ce qu'on a quand même été capable de mettre en évidence, ce qui me semblait vraiment intéressant.
Parce que les céréales, dans la mesure où c'est un des éléments principaux pendant des siècles de la nourriture des pays méditerranéens et européens en général, c'est quand même quelque chose d'important à connaître.
Je crois aussi, mais il faut aussi reconnaître qu'on fait que si on demandait à un de nos ancêtres, je sais pas moi, de la Grèce antique, de manger le pain qu'on prépare avec les céréales d'aujourd'hui et les céréales qu'il préparait lui, je sais pas s'il reconnaîtrait les grains. Hein. Et donc peut-être qu'on a changé des choses et que la relation entre céréales et risques, qui a été pendant longtemps une relation plutôt bénéfique, s'est modifiée pour une part. Je ne peux pas répondre bien précisément à ça parce que je n'ai pas vu les chiffres de façon précise là-dessus.
Ce qu'on sait, c'est que les céréales antiques contenaient beaucoup plus de nutriments que nos céréales actuelles.
C'est bien probable.
La notion de bio, là-dedans,
le micro, non. Le micro, s'il vous plaît.
Non, il n'y a pas de... La question, c'est est-ce qu'on fait la distinction entre les aliments bio et les autres? À ma connaissance, on a peu de chances de répondre correctement à ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays donc, qui ont été mis en avant et qui étaient des pays dans lesquels, quand vous êtes avec des pays intermédiaires en termes de niveau de développement économique, Brésil, Colombie, Chili ou Argentine, vous êtes dans des pays qui sont globalement des pays d'agriculture industrielle, hein, d'agriculture intensive. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse bien distinguer l'un de l'autre, mais soit dit en passant, on n'a pas si clairement prouvé que le bio évitait les soucis de santé. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est génial. Je suis en train de vous dire qu'en termes de preuves scientifiques, c'est quelque chose de compliqué à obtenir. On n'a pas d'éléments si évidents que ça pour dire que le bio, c'est mieux. Et il y a des tas d'arguments sur le plan écologique et sur le plan de la façon dont l'agriculture intensive impacte notre environnement. Mais pour autant, je ne peux pas bien répondre sur la question du bio, sur le risque cardiovasculaire, et en tout cas pas dans cette étude-là. Ah oui, on est un peu là pour ça. Hein.
Non, mais c'est parce que c'est enregistré.
Je voulais savoir, sérieusement, hein, quand on mange des pommes qui ont 27 traitements, non, mais je ne veux pas chercher la polémique, mais peut-être est-ce que l'organisme arrive assez bien à filtrer tous ces produits chimiques, parce que c'est possible, je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment dangereux de manger des pommes qui ont 27 traitements?
Je ne suis pas capable de vous répondre autre chose que ce que les études nous disent ici. Et ce que les études nous disent ici, c'est que les gens qui mangent plus de fruits et de légumes, et c'est vraiment bien net, notamment avec les légumes crus et avec les fruits frais, eh bien, ces gens-là ont moins de problèmes de mort toute cause, et d'événements cardiovasculaires, comme j'ai essayé de vous le montrer précédemment. Donc après, C'est ce qu'on vient de dire là, au fond. Hein, on est sur des agricultures en Argentine, au Chili et autres. C'est pas uniquement des agricultures vivrières dans des petites régions avec des petits exploitants. C'est souvent de la grande industrie agricole. Hein. Et cependant, cette relation, on la trouve.
Prends le micro par contre.
Ah, pardon.
Ah, tu peux le prendre celui-là peut-être.
Alors effectivement, il y a plein de polémiques sur l'alimentation, sur plein de choses, sur le nombre de traitements, sur etc., etc. Voilà, voilà. Alors, où est-ce qu'on est là ? Je vois rien du tout. Mais il y a, oui, allez-y, allez-y. Merci.
Ça fait 20 ans que je, pour parler des statines, qu'on voit très souvent des analyses très, très désagréables à propos des statines. C'est un produit qui paraît très controversé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est justement le but de, oh, de la réunion. Donc
vous êtes bien où il faut.
Là, on est vraiment dans le débat.
Vous êtes bien où il faut.
Mais juste avant, on parle des pommes avec plein de traitements, on parle de ce qu'on peut manger, des céréales, est-ce qu'on s'est évolué, pas évolué, etc., etc., etc. Du cholestérol, avec le problème de la circulation. Le problème de la circulation, c'est tout le bouchon pour moi, hein, parce que quand il y a un bouchon, il faut que je me lève la nuit pour aller déboucher. Donc, effectivement. Mais il y a deux choses que vous pouvez faire, et ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour améliorer votre risque cardiovasculaire, c'est de ne pas fumer. Ça, toutes les études le démontrent, et les études récentes également, et bouger. Ça, c'est indispensable. On le voit très bien sur la courbe qu'a montré Sami Hadjadj. Hein, la décroissance du risque, elle est évidente. Elle est évidente pour une activité physique peu importante. Donc, tout est bon là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au marathon pour diminuer votre risque cardiovasculaire. Marcher une demi-heure par jour, ça diminue votre risque cardiovasculaire, quel que soit le type d'activité que vous faites, que ce soit récréationnel, pas récréationnel. Récréationnel, ça veut dire que ça vous fait plaisir ou pas, mais quel que soit le problème, il faut bouger. C'est indispensable. Et il faut sortir. Il y a des études récentes, là, actuellement, qui montrent que chez les enfants, l'obésité, ça augmente. Chez les enfants, en Angleterre, de 10-13 ans, ils sortent moins que les détenus. C'est quand même des choses qui sont interpellantes. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas une heure par jour. Ils ne font pas une heure de l'activité physique dehors par jour. Et donc, effectivement, ça nous prépare un terrain à risque cardiovasculaire. Et ça, c'est très embêtant. Pour revenir sur les statines et reparler un petit peu de tout ça, moi aussi, j'ai des conflits d'intérêts, évidemment, avec tous les laboratoires qui fabriquent des statines, parce que tous les laboratoires qui fabriquent des statines viennent me voir pour discuter pour ou contre les statines, pour ou contre le cholestérol, pour ou contre l'infarctus, etc. Et effectivement, il est très difficile, on ne va pas parler d'être expert, parce que c'est un terme un peu prétentieux, mais d'être impliqué là-dedans sans connaître un petit peu le sujet. Et ça, c'est toute la difficulté qu'ont nos autorités de santé actuellement à trouver des solutions là-dessus. Alors ça, c'est des documents officiels de l'HAS. Hein, moi, je me suis retrouvé plutôt sur des documents certifiés, on va dire, en tout cas, qui correspondent à ce que nous proposent nos autorités de santé. Et ça, c'est simplement comme ça qu'on calcule votre risque cardiovasculaire. Peut-être une petite flèche quelque part, un petit bouton vert. Voilà, et là, très simplement, hein, ça, c'est l'échelle du risque qui s'appelle le score. C'est votre score de risque cardiovasculaire, donc de risque de mourir d'un problème cardiovasculaire et non pas d'être faire simplement un infarctus. Là, c'est vraiment de mourir d'un problème cardiovasculaire dans les années qui suivent, avec simplement quelques paramètres. Ici, vous avez votre taux de cholestérol. Plus il est élevé, bah, plus ça rougit. Hein. On le voit bien. Et puis après, simplement, vous êtes une femme ou un homme et vous êtes fumeur, non-fumeur. Et puis après, vous avez votre niveau de tension artérielle. Voilà déjà quelques paramètres qui permettent de vous évaluer votre risque cardiovasculaire. Et puis en même temps, de vous proposer aussi de vous dire que si vous diminuez votre tension artérielle, vous la prenez en considération, vous la diminuez. Le sexe et l'âge, ça, c'est difficile d'y faire grand-chose, hein, sauf
Voilà. Mais au moins la tension artérielle et le cholestérol, ça, on peut agir là-dessus. Et puis, évidemment, sur le tabac. Ça, c'est quelque chose d'impératif. Et puis, donc, vous avez, voilà, des risques cardiovasculaires qui sont quantifiables. Faibles, vous avez moins d'1% de risque d'événement. Et puis, très élevé, ben, vous êtes à plus de 10% de risque d'événement. Et puis, dans les risques très élevés, vous avez tous les patients qui ont déjà fait un problème d'infarctus ou un problème vasculaire en général qui a été documenté, qui a été certifié. Ça, on sait que vous avez été pris par le radar une fois, vous risquez fort d'être pris par le radar une deuxième fois. Hein? Donc, voilà. Et puis, un risque de décès cardiovasculaire à 10 ans, évalué à 5%, eh ben, ça représente, donc un risque de décès, ça représente environ 20% de risque d'événement cardiovasculaire. Donc, on multiplie un petit peu ces chiffres-là pour avoir le taux d'événement à risque, donc d'infarctus, pour parler très simplement, dans le suivi. Que dit l'HAS également ? Eh ben, elle fait des recommandations qui sont remises à jour récemment, malgré tous les propos qu'on a pu entendre sur la controverse cholestérol, statine, pas statine, trop de cholestérol, du bon, du mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Eh bien, il y a quand même l'autorité de santé qui nous dit ben, quand même qu'il faut essayer de faire baisser ce taux de cholestérol en fonction de votre situation de risque cardiovasculaire. Et on sera d'autant plus intransigeant sur le fait de faire baisser votre taux de cholestérol avec des objectifs qui sont ici. Mais les objectifs sont une chose. L'intérêt, c'est de faire baisser votre taux de niveau de cholestérol par rapport à votre... Vous avez fait un infarctus avec un taux de cholestérol qui ne vous paraît pas très important, mais pour diminuer votre risque de récidive, il faut faire diminuer ce taux qui, même s'il ne vous paraît pas très important, il faut quand même le faire diminuer de façon significative. Voilà. Ensuite, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de Santé. Les statines constituent la première ligne de traitement médicamenteux de l'hypercholestérolémie isolée lorsqu'on a besoin de le traiter. Et on voit très bien que dans ces, en fonction du risque que vous avez de votre taux de cholestérol, vous avez en priorité la modification du mode de vie. Et la lutte contre la sédentarité est un phénomène extrêmement important là-dedans. Et puis, quand vous êtes dans un risque catégorie élevée ou très élevée, très souvent, on va dire dans la majorité des cas, vous êtes obligé de faire appel à un traitement médicamenteux pour pouvoir obtenir ces niveaux cibles ou au moins diminuer votre taux de cholestérol de départ. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Voilà, moi je suis resté là en 2016, je suis moins rapide que toi, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais quand même, des grandes revues qui ont essayé de faire le point un petit peu sur l'efficacité des statines. Plus de 100 000 patients qui ont été randomisés. Randomisés, ça veut dire qu'on vous tire au sort, vous ne savez pas ce que vous prenez, le médecin ne sait pas ce que vous prenez. Il y a des groupes de patients qui sont sous statine, d'autres qui sont sous placebo. Donc, c'est fait à l'aveugle pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Toutes les études, l'ensemble de ces études, lorsqu'on les reprend, eh bien on voit que l'efficacité des statines, ça permet de diminuer le risque de décès de cause cardiovasculaire, ça c'est déjà une bonne chose, le risque d'infarctus, les deux sont un petit peu liés, le risque d'accident vasculaire cérébral et le risque de revascularisation coronaire. Ça veut dire que j'aurai moins de travail. Bon. Diminution d'environ 25% pour chaque millimole, c'est-à-dire environ 0,4 g de LDL cholestérol par litre, vous diminuez de 25% environ votre risque pour chaque année de prise. C'est-à-dire que la première année, il ne se passe pas grand-chose, et puis après, vous allez diminuer d'environ 25% votre risque, et ces 25% vont être renouvelés à chaque année d'utilisation, et donc c'est assez efficace. Le bénéfice obtenu, il dépend de plusieurs choses. Il dépend du risque absolu. Si votre risque est faible, pas un grand intérêt à aller vous donner des médicaments pour un risque qui est faible. Si votre risque est élevé, et notamment en prévention secondaire, vous avez déjà fait un événement, où vous risquez d'en faire un deuxième, eh bien, vous allez avoir un gain sur cette efficacité des traitements et de la baisse du cholestérol, notamment par les statines. Ça va être lié également, en dehors du risque que vous avez, à la réduction du LDL cholestérol obtenu et à la durée de traitement. Donc on voit que Il y a plusieurs paramètres qui interviennent là-dedans. Si vous diminuez d'environ 2 millilitres, 2 millimoles, vous avez environ 0,8 g par litre de LDL cholestérol, ce qui est une cible qui est tout à fait obtenue assez fréquemment avec les médicaments qu'on a actuellement, pendant 5 ans pour 10 000 patients, eh bien vous allez éviter environ 10% d'événements, du risque absolu d'événements chez les patients en prévention osmolaire, donc chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, par exemple. Donc vous allez éviter environ 1 000 patients. Un infarctus chez environ 1 000 patients pour 10 000 patients traités. C'est quand même assez efficace. Alors, les problèmes. Les problèmes, on a assez entendu à la télévision, à la radio, qu'il y avait plein de problèmes avec les statines. Si on fait des études chiffrées là-dessus, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'atteintes, des atteintes musculaires. Alors, des atteintes musculaires, simplement, vous pouvez avoir simplement des crampes, et puis vous pouvez avoir des réelles atteintes musculaires, où là, vous avez à la fois des douleurs musculaires, et puis une augmentation des enzymes des muscles. Vous pouvez déclencher un nouveau diabète, et vous pouvez éventuellement, et ça, ce n'est pas encore tout à fait prouvé, peut-être un risque d'hémorragie cérébrale. Que dit l'HAS en 2017 ? Si vous avez des soucis avec votre traitement, vous pouvez arrêter la statine et la réintroduire ultérieurement pour voir si effectivement ce que vous ressentez, ben, c'est lié à ce médicament-là ou là, ou pas, réduire la dose ou le remplacer par une autre statine, et puis voir diminuer la posologie pour essayer de garder quand même une partie du bénéfice avec une tolérance qui est correcte. Ça, voilà, oui. Alors, pour 10 000 patients traités pendant 5 ans, donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de boîtes de comprimés, vous allez avoir 50 à 100 patients qui vont présenter des douleurs musculaires. Ça, c'est effectivement assez souvent signalé des patients qui vous disent « j'ai un peu plus de mal aux muscles quand je prends mes statines que quand j'en prenais pas », effectivement. Mais dans ces cas-là, les risques graves sont exceptionnels, puisque vous avez 5 cas pour 10 000 patients traités pendant 5 ans. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les négliger, ces patients-là, évidemment. Mais il faut relativiser, évidemment, le risque lié à l'usage de ces médicaments. Environ 50 à 100 cas de nouveaux diabètes, ça, Samir Tchach pourra peut-être donner son interprétation là-dessus. Voilà. Mais effectivement, très souvent, le motif principal d'arrêt va être des douleurs musculaires qui ne sont pas forcément graves, qui peuvent être invalidantes, gênantes, etc., mais qui ne sont pas forcément graves et pour lesquels il faut peut-être adapter le traitement pour essayer de ne pas passer de tout à rien. On en a ou on arrête parce que simplement on a quelques douleurs musculaires. Et puis en balance avec ces douleurs ou ces effets indésirables, et puis il faut mettre la gravité des événements cardiovasculaires et des séquelles éventuelles des infarctus. On l'a vu que ça pouvait être quand même extrêmement difficile et gênant. Si on regarde un petit peu l'efficacité de ces traitements, eh bien, on se rend compte que l'efficacité qui est ici, puisque vous êtes du côté de ce côté-ci, de cette ligne de démarcation entre ce qui est plutôt péjoratif et ce qui est plutôt bénéfique, eh bien, on voit que quel que soit votre taux de cholestérol avant le traitement, même s'il n'est pas très élevé, vous gagnez de façon relativement similaire en termes de réduction d'événements cardiovasculaires. Vasculaire. Pareil en fonction de l'âge, jusqu'à 75 ans, c'est assez bien démontré qu'on garde ce bénéfice. C'est vrai aussi pour les patients de plus de 75 ans, mais effectivement, on a moins de certitude. C'est vrai chez l'homme et chez la femme. Et voilà, on peut dire ça comme ça. C'est vrai chez le diabétique, c'est vrai chez l'hypertendu, c'est vrai si vous fumez ou pas, mais il vaut mieux pas fumer, évidemment. Et puis, en fonction de votre niveau de risque également, on gagne en termes de réduction d'événements. Ça, je vais pas passer, je vais passer là-dessus. En termes de réduction d'événements, voilà, si on regarde cette efficacité-là, on diminue d'environ 25% le risque d'événement cardiovasculaire, ce qui n'est quand même pas négligeable pour ces familles de médicaments. Et puis on diminue la mortalité cardiovasculaire et on diminue la mortalité globale, essentiellement par cette diminution de la mortalité cardiovasculaire. Vous savez qu'en France, on meurt de deux grandes cause la mortalité cardiovasculaire en priorité et la mortalité par cancer dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'il faut faire comme surveillance ? On surveille les enzymes hépatiques avant et après le traitement, et puis les enzymes musculaires, on peut les surveiller également, mais il n'est pas utile de les doser avant. Et on va les doser avant que si on est dans certaines circonstances. Et puis après, ce n'est pas parce que ça augmente un petit peu qu'on est obligé d'arrêter le traitement. On a des recommandations pour tout ça également, là encore, qui ont été de nouveau soutenues par l'autorité de santé en février 2017. Voilà, je veux juste m'arrêter là parce que je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. On va accéder à vos questions et essayer d'y répondre. Ce sera bien plus efficace.
Merci. J'ai déjà eu un petit peu de questions pendant les interventions, mais si vous avez d'autres, profitez là du minute qui nous reste pour poser vos dernières questions. Plus de questions.
Donc moi, j'ai quand même un souhait, j'y reviens hein, encore une fois. La priorité des priorités, c'est vous. Pour éviter de faire un infarctus, pour éviter une récidive d'infarctus, eh ben, il faut se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est d'abord ne pas fumer et lutter contre la sédentarité, lutter contre le surpoids, contre l'obésité abdominale. Et après, il y a aussi tous les traitements adjuvants qui vont venir, qui sont souvent très efficaces, très importants, mais sur lesquels on va pouvoir se focaliser pour dire « Ah oui, mais ça me donne des crampes ou ça m'embête un petit peu par-ci, par-là. » Commencez déjà par ce qui est de votre ressort et qui ne dépend pas du risque lié aux pesticides, lié au type de céréales qu'on peut manger, etc., etc. Ça, ce sont des mesures simples sur lesquelles vous ne prenez aucun risque. Et effectivement, une à cinq cigarettes par jour, ça augmente votre risque cardiovasculaire.
Merci.
Une petite question là-bas.
Vous ne parlez que des statines, maintenant, et les fibrates, il n'en est plus...
Les fibrates ont moins de niveau de preuve d'efficacité, ils vont être donnés dans une deuxième intention. On le remarque avec les recommandations de l'HAS, qui sont les mêmes depuis 2012 et qui ont été reconfortées en 2017. Ça reste en première intention, les statines, parce qu'elles ont un niveau d'efficacité sur des grandes études qui ont montré que c'était supérieur. Voilà.
Le problème des fibrates, en fait, c'est qu'ils sont assez peu efficaces pour faire baisser le mauvais cholestérol. Vous avez avec les statines une baisse très sensible du mauvais cholestérol. Vous avez avec les nouveaux médicaments qui ont été cités très rapidement par M. Vercous, un effet sur le mauvais cholestérol de réduction de 60%. Autrement dit, vous avez des médicaments très puissants pour faire baisser le LDL, le mauvais cholestérol, qui sont associés à une réduction très franche des événements cardiovasculaires. Les fibrates sont peu efficaces sur le mauvais cholestérol et sont peu efficaces pour faire réduire le risque cardiovasculaire.
Et ne sont pas dénuées d'effets secondaires.
Alors, ce nouveau médicament pourrait peut-être... Parce que j'ai remarqué que les statines avaient un effet bénéfique pour les problèmes cardiovasculaires, mais par contre, augmentait le risque de diabète, si j'ai bien compris ce que vous avez montré. Alors, ce nouveau médicament dont vous parlez, est-ce qu'il ne pourrait pas résoudre ce problème-là pour les gens qui sont concernés par le diabète, justement ?
Alors, il y a plusieurs éléments dans ma réponse. Le premier élément, c'est, vous avez raison, les statines augmentent le risque de diabète. Premier point. Vous avez raison aussi, les nouveaux médicaments inhibiteurs PCSK9 sont neutres vis-à-vis du risque de diabète. La question, c'est dans quel cas bien utiliser quoi ? Le problème, c'est que le nombre de personnes qu'il faut traiter fait que mon impression, je veux bien celle de mes collègues de ce soir, c'est que ces médicaments-là, pour l'instant, on coûtait de l'argent pas mal pour être développé, que les laboratoires qui ont développé ces médicaments-là sont très contents de ce qu'ils ont fait, qu'ils vont vouloir beaucoup d'argent. Et que dans ce contexte-là, il faudra décider de façon précise chez qui on utilise ces médicaments-là. Et donc, l'idée de dire « je suis à risque de diabète, je ne prends pas de statine, je prends ces médicaments-là » ne me semble pas une bonne approche, parce qu'on n'y arrivera pas économiquement parlant, d'une part. Puis d'autre part, ces médicaments qui font vraiment significativement baisser le LDL sont d'autant plus efficaces qu'ils sont ajoutés aux statines. Donc ça ne répond pas complètement à la question.
Et puis c'est vrai que ça augmente le risque de diabète, mais si on fait la balance entre l'efficacité et le risque d'induire un certain nombre de diabètes, on est largement gagnant. Donc, sur le plan de la population générale, on va être gagnant.
Oui, mais quand ce n'est pas un risque, mais que c'est déjà un diabétique.
Alors là, par contre, on a la réponse, c'est-à-dire que lorsque l'on utilise des statines chez les personnes qui ont du diabète, ça ne dégrade pas le taux de sucre, premier point. Et deuxième point, ça, si la statine est utilisée à bon escient, ça réduit le risque d'événements de santé, et notamment d'événements cardiovasculaires. Donc autrement dit, la question des statines chez les personnes qui ont du diabète, ça marche.
C'est aussi efficace qu'on ait du diabète ou qu'on n'ait pas de diabète. Ça.
Oui, j'ai vu il y a quelques mois cette fameuse émission sur Arte, qui était très impressionnante parce que les arguments de notre collègue grenoblois semblaient tout à fait assurés. Et il semblait d'autant plus assuré que dans le dialogue qui a suivi avec un confrère allemand, les arguments apportés par le confrère allemand, visiblement, il n'avait pas préparé sa conférence. Alors, il y a quand même une question de santé publique qui se pose. D'abord, comment, si c'est... ces données sont fausses, n'est-ce pas? Et je veux bien croire qu'elles le sont, après votre démonstration. Comment ont-elles pu être portées à la connaissance fallacieuse du grand public? Et j'imagine que vous êtes peut-être aujourd'hui amené à voir les conséquences peut-être fâcheuses de cette émission. Et pour prendre un autre exemple, il y a de grands sujets de santé publique qui mériteraient... que le public soit suivi dans ses connaissances. Je fais allusion actuellement au débat qui entoure les vaccinations. Peut-être certains dans la salle reçoivent comme moi les lettres épisodiques d'un ancien collègue montpelliérain, ancien collègue chirurgien montpelliérain, qui est doublé, qui sont étayées, ces lettres, par des lettres qui viennent d'un médecin qui défend la médecine naturelle et qui est en Belgique. Bon, ces lettres, dont moi-même je perçois parfois le caractère un peu fallacieux, peuvent avoir un retentissement sur la santé publique qui est probablement nocif. Donc, je ne vous pose la question que pour ce qui vous concerne. Est-ce que vous comptez faire une publicité, une émission sur Arte ou ailleurs pour contrebalancer les propos peut-être néfastes de notre collègue?
Alors, je peux répondre assez facilement là-dessus parce qu'en fait, il y a eu un débat au sein des sociétés savantes. Le débat, c'est exactement le même débat que sous certains aspects, la politique nous donne à le voir. C'est-à-dire que quand vous avez Donald Trump qui sort une énorme connerie, et pardon du terme tout à fait vulgaire, mais quand vous avez des gens qui sortent mais des énormités, il faut 10 secondes pour sortir une énormité, il faut 10 minutes pour expliquer pourquoi c'est une énormité. Ça, c'est le premier point. Donc, la difficulté, c'est que si on veut reprendre, le mélange et tirer ce qui est vrai, ce qui est discutable et ce qui est faux dans une émission, il faut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et le droit de réponse nécessite environ 10 fois plus d'énergie. En tout cas, il y a une thèse italienne là, qui est assez floresse en ce moment, qui dit que, en fait, il faut probablement 10 fois plus d'énergie pour expliquer correctement quelque chose que pour contrer une chose fausse qui a été annoncée. Et donc, premièrement, il va falloir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir remettre l'Église au centre du village et pour pouvoir remettre les connaissances scientifiques prouvées au cœur de la réflexion de la société. Et deuxièmement, les sociétés savantes ont estimé qu'elles n'auraient pas assez de tribunes dans les médias pour pouvoir aller faire ça. Et donc, Arte est inintéressé à l'idée de donner un droit de suivi dans ce type d'émission. La vie médiatique va si vite que personne ne s'intéresse trois jours après. Le journaliste qui a mis ça en place est passé, à partir du moment où le sujet était présenté, était complètement sur autre chose depuis déjà 15 jours, 3 semaines ou un mois. Et donc, c'est une des limites de la vie médiatique et de la démocratie, d'une certaine façon. C'est bien trop facile de dire des choses fausses et non étayées, et ça nécessite malheureusement beaucoup de travail pour étayer avec des arguments, et nous les avons toujours ici présentés, identifiés, montrés. Et donc ce travail-là, il est très important, mais c'est exactement celui que nous faisons ce soir.
Et puis, c'est vrai que, quelquefois, plus tu expliques, plus on te dit, c'est la théorie du complot, hein, plus tu rapportes de preuves, plus on te dit, ben, c'est parce que toutes ces preuves-là ont été faites médiatiquement, ont été arrangées, structurées, pour que vous ayez ça à répondre. Donc, effectivement, c'est très difficile, d'autant plus que l'argumentaire de ceux qui sont contre est souvent difficile à démonter parce qu'il y a peu d'argumentaires, en fait. Donc, on se retrouve un petit peu difficile.
Nous avons l'occasion, avec notre association, de rencontrer de nombreux patients. Je donnerai que pour exemple, j'ai fait le Salon des seniors à Paris, une journée simplement. Il y a un passage absolument phénoménal, donc on était hyper questionnés. Mais je vous dirais que c'est atterrant de voir le peu de connaissances des personnes qui sont concernées par le cholestérol sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que le grand bluff a fait un mal considérable, qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient des statines, se faisaient suivre médicalement, ont du jour au lendemain arrêté. Voilà. Donc, effectivement, c'est très grave, des émissions comme celle-là. Le problème de cette émission, c'est qu'en fait, il n'y avait pas le bon équilibre entre les pour et les contre, si je puis dire, quoi. Et ça manquait de contre-arguments. Effectivement, il y a eu beaucoup de sollicitations pour refaire des émissions derrière, qui nous ont été refusées par Arte. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est pour ça qu'on a notre bâton de pèlerin ce soir, c'est qu'il faut tous lutter sur le sujet, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont viré. Hein, Et quand je vous dis des gens, je parle également de médecins. Vous avez énormément de médecins qui soutiennent ce courant-là, quoi. Donc, c'est
un danger de la vie d'autrui.
Et oui, je suis parfaitement d'accord.
Ce qui est complexe, c'est qu'en fait, quand vous avez quelque chose qui marche, par définition, à partir du moment où c'est acquis, il est normal de remettre en cause n'importe quel acquis, quel que soit l'outil qu'on ait. Et donc, c'est vraiment une caractéristique humaine. Et la difficulté qu'on a... Moi, je ne suis pas interventionniste comme peut l'être Luc Christian, ce qui fait que je suis un pauvre docteur qui est toujours tort. Parce que mon métier, c'est de prévenir des événements de santé. Et donc, je ne peux avoir que tort. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'explique à une personne que je lui conseille de prendre une statine, chaque fois qu'elle ne prendra pas la statine, elle viendra me voir en disant « Voyez, docteur, vous avez tort, je suis encore vivant, je n'ai pas fait d'infarctus. » J'ai tort. Et le jour où, par malchance, cette personne va faire un infarctus, j'aurai tort, en ce sens que je n'aurais pas été capable de prévenir cet événement-là. Donc c'est extrêmement complexe, parce que personne ne peut savoir de façon suffisamment fine qui va, à l'échelle de l'individu, bénéficier ou pas du traitement. Et ça rend extrêmement complexe notre façon de traiter, non pas la population, mais la personne qu'on a devant nous lorsqu'on est en consultation.
Et je rajouterais qu'il faut les prendre, mais pour ceux qui sont concernés, mais il faut les prendre en continu. Comme je suis nouveau retraité, je fais du bridge. Et un jour, en discutant avec une personne en face de moi, elle me dit, tiens, mais j'ai fait un AVC. Et puis, comme ça, mécaniquement, je lui pose la question, mais est-ce que vous avez... quelles sont les causes? Elle me dit, c'est de l'hypercholestérolémie familiale. Ah, ben, je lui dis, vous êtes en face d'une... Vous tombez bien, voilà. Et donc, elle me dit, comment c'est arrivé? Voilà, c'était Anne. comment c'est arrivé? Et elle me dit, ben, je prenais des médicaments, et puis, elle a eu, alors je ne suis pas spécialiste, mais elle a eu un autre problème, et on lui a fait arrêter de prendre les médicaments. 3 semaines après, elle avait son infarctus. Bon, voilà. Donc, moi, mon exemple aussi, hein, je prenais des médicaments quand j'étais jeune, puis je les prenais plus ou moins bien, et puis, à un moment donné, je ne les ai pas bien pris, et confronté avec le reste. Voilà.
Mais ceci étant, les lanceurs d'alerte, si ce sont des vraies alertes ou des fausses alertes, je ne sais pas, mais ont le grand mérite de nous faire réfléchir sur la question et de réévaluer tout ça. Hein, c'est évident que tout ce qui a été dit sur les statines, en bien ou en mal, a dû être réévalué puisque quelqu'un a dit ça ne marche pas ou c'est dangereux. Ou, voilà. Ça, le gros intérêt, c'est que ça vous fait réfléchir sur le sujet. Ça vous fait refaire vos calculs, vos travaux, etc. Et ça vous conforte ou pas dans l'utilisation ou pas de ce type de traitement ou d'autres traitements.
Il faut être clair, il y a eu des abus. Hein. Il y a eu des abus. Dans l'autre sens, il y a eu des abus par les laboratoires qui ont poussé fortement toute personne qui avait du cholestérol, alors que beaucoup ne méritaient pas d'avoir ces médicaments. Quoi. Le sport ou manger sainement suffisait largement.
Oui, vas-y, vas-y.
Manger des fruits et légumes, etc. Est-ce qu'on peut espérer supprimer la prise de statine? Est-ce que ça peut? Non.
Ben nous,
on est condamné à prendre des statines jusqu'au
nous,
bout. Quoi.
Nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que... pas de produit de substitution. Mais nous, généralement, ce que l'on évoque dans ce cas-là, c'est qu'on dit que le sport, ça fait à peu près 15%. La nourriture, 15%, les médicaments, 70%, dans le cadre de l'hypercholestérolémie familiale.
Et simplement pour ajouter un élément, en fait, faut bien comprendre une chose, c'est que dans le cas que vous expliquez et qui vous concerne, mais qui est un cas intéressant car il s'applique à de nombreuses personnes, on utilise les statines non pas comme un médicament de l'hypercholestérolémie, mais comme un médicament qui permet de lutter contre la récidive des problèmes cardiovasculaires. Mmh. Donc en fait, c'est un bon médicament du risque cardiovasculaire au-delà du fait qu'il est en premier un médicament du cholestérol. Donc autrement dit, on l'utilise d'une façon qui ne correspond pas à ce pourquoi il a été tout au début pensé. On l'utilise pour une autre raison. Mais après, c'est important d'avoir la discussion... duel avec votre médecin, parce que si vous et c'est un point important, ce que vous devez savoir, c'est que les effets indésirables des médicaments et notamment des statines sont 2 fois plus forts, et ça a été évalué dans une étude très bien conduite, sont 2 fois plus forts à partir du moment où vous savez que vous prenez des statines. Donc je suis bien certain que Luc connaît cette étude là donc dans une étude sur le risque cardiovasculaire, il y avait une période dans laquelle on disait aux gens, vous avez soit la statine, soit le placebo. Et lorsqu'on leur regardait le risque des gens qui ne savaient pas s'ils avaient l'un ou l'autre des 2 options de traitement, il y avait à peu près 2,5% de douleurs musculaires. Et puis ces mêmes personnes, quand on a continué à les suivre, mais en leur disant à ce moment-là ce qu'elles recevaient comme traitement, ces mêmes personnes qui recevaient des statines et qui, à ce moment-là, savaient qu'elles recevaient des statines, se sont mis à avoir 2 fois plus mal. Et donc, on avait 5% de personnes qui avaient des douleurs musculaires. Donc, la difficulté qu'on a, c'est que les statines font mal aux muscles, de façon qui nous a été rappelée par le professeur Christians, mais aussi que le fait de savoir que des médicaments peuvent nous donner des douleurs va nous inciter à... entendre plus notre corps quand nous avons ce type de douleur, par exemple. Et donc, ça rend encore plus complexe la relation que nous avons aux médicaments.
Et pour rebondir sur votre remarque, votre démarche est intéressante parce que vous dites on va compenser entre guillemets en quelque sorte le fait d'arrêter sa statine par une meilleure hygiène de vie globale, etc. Donc effectivement, moi, si quelqu'un vient me voir en disant je ne supporte absolument pas avec un niveau de preuve évident, des problèmes d'enzymes musculaires qui montent, etc., que ben, il faille l'arrêter, il faut de toute façon privilégier encore plus le fait de lutter contre la sédentarité, contre le tabac, contre le diabète, contre d'autres facteurs de risque. La statine, c'est pas une assurance vie, c'est pas parce que vous prenez une statine que ça y est, c'est bon, vous avez le droit de prendre 10 kilos, d'arrêter de marcher, de faire tout en voiture, etc. C'est un problème global. La santé, c'est un problème global. C'est la consommation de fruits et légumes, l'activité physique, le fait de ne pas fumer, le fait d'avoir une hygiène de vie correcte, ça fait partie, évidemment, dans la lutte contre le risque de récidive ou de premier événement.
J'ai deux petites questions supplémentaires. Il y a de nombreuses années, je crois qu'une étude outre-Atlantique avait montré ou avait semblé montrer que abaisser le taux de cholestérol de façon intense permettait de diminuer l'importance des plaques athéromateuses. Est-ce que ça a été confirmé ?
Ça a été une étude qui a été un petit peu remise en question. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres études pour infirmer ou confirmer. Donc, c'est des études qui sont très difficiles à faire, hein, parce que chez l'homme, chez l'animal, on arrive à faire, mais ce qui nous intéresse, c'est l'homme. Et chez l'homme, c'est très complexe à faire, puisqu'il faut pouvoir avoir des outils d'évaluation de choses qui sont tout à fait petites. Hein, les plaques latérales ne sont pas très, très grandes. Et ça, c'est compliqué de l'évaluer. Ce qu'on peut dire, moi, qui fais beaucoup de scanners, c'est qu'il y a une méthode pour évaluer votre risque cardiovasculaire qui correspond au fait de faire un scanner du cœur sans injecter de produits de contraste, et on regarde simplement si vous avez des calcifications sur les artères du cœur. Si vous avez des calcifications sur les artères du cœur, c'est que vous avez déjà de l'athérome sur les artères du cœur. Et cette présence de calcification, elle est d'autant plus que vous avez des calcifications, autant augmente votre risque cardiovasculaire d'événement. Et quand on suit des groupes de patients avec ou sans statine, ils progressent moins sur leur quantité de calcaire sur les artères coronaires que ceux qui n'en prennent pas. C'est un embryon de réponse qui n'est pas très puissant comme raisonnement, mais qui répond un peu à la question.
Et une question à Monsieur le Président de la NET. Oui. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire que dans l'esprit des médecins, il y a souvent une confusion entre l'hypercholestérolémie familiale et le cholestérol. J'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Dans l'esprit des médecins généralistes.
Oui, l'hypercholestérolémie, pour eux, n'est pas ou peu connue.
D'accord.
Tout simplement. Donc, de ce fait-là, n'est pas soigné en tant que tel et n'est pas reconnu et donc n'a pas toutes les prescriptions que l'on peut évoquer.
Alors, j'ai envie d'insister sur la question parce que justement, je me demandais si le médecin détecte qu'une personne est atteinte d'hypercholestérolémie familiale. Est-ce que son attitude par rapport à un traitement va être différente de celle de l'attitude qu'il aura pour une personne, aucun cas dans la famille connu, etc., mais qui débarque un problème de cholestérol?
On va me poser il
y a une réponse qui est que, en fait, si vous avez deux personnes de 30 ans, une qui a une hypercholestérolémie familiale, alors si vous me permettez, je vais aller à 50 ans, juste parce qu'on sait que le cholestérol, et même le mauvais cholestérol, augmente avec l'âge. Et donc imaginons deux personnes, une qui a 50 ans, qui a une hypercholestérolémie familiale, et une qui a 50 ans, et qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale, pour lequel on voit apparaître une augmentation du taux de cholestérol lié à son âge et à d'autres éléments de santé. Vous allez avoir un risque d'avoir des événements cardiovasculaires qui est complètement différent parce que vos vaisseaux, ils ont baigné pendant une vie dans une atmosphère avec beaucoup trop de cholestérol et beaucoup trop de mauvais cholestérol, versus quelques années ou mois dans un cas et dans l'autre. Et en fait, le risque sur une vie est considérable dans l'hypercholestérolémie familiale, ce qui justifie de traiter dès les premières années de vie. Et le cas de Maxime, qui a été rappelé dans le film de Lanette, est un excellent exemple. Explique pourquoi des jeunes de 10 ans ou plus bas même dans les hypercholestérolémies familiales homozygotes ou d'une vingtaine d'années peuvent avoir des infarctus alors que c'est complètement inattendu et surprenant.
C'est, pour revenir sur la question des médecins généralistes qui ne savent pas, enfin bon, bref, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que dans nos études, on nous a parlé de l'hypercholestérolémie familiale à une époque où quand on parlait d'hypercholestérolémie familiale, c'était les formes quasiment homozygotes avec des taux de 7 grammes par litre de mauvais cholestérol, etc., avec des conséquences catastrophiques pour des gens de 20, 25 ans, etc. Là, on a élargi un petit peu la fenêtre de tir sur toutes les formes hétérozygotes où c'est simplement le fait d'appartenir à une famille d'hypercholestérolémie avec des taux qui ne sont pas si élevés que ça, mais avec un contexte familial qui fait qu'il y a toute une gravité, comme l'a rappelé le docteur Adjage, le professeur Adjage tout à l'heure, à l'instant, en disant que ça traduit une longue période d'hypercholestérolémie, alors que quand vous faites quelque chose d'isolé, on peut penser que ça ne fait que quelques mois, quelques années qu'il y a ce problème-là.
Est-ce à dire que
c'est pas une méconnaissance de la part des médecins, c'est une mauvaise appréciation par rapport à ce qui s'est dit il y a une quinzaine d'années où on connaissait cette forme d'hypercholestérolémie familiale, mais dans des formes très sévères. Là, ce qu'on veut faire parvenir comme message, c'est que l'hypercholestérolémie familiale, elle est beaucoup plus fréquente que ce qu'on pensait, avec des formes qui ne sont pas forcément avec des formes extrêmes de taux de cholestérol.
Oui, est-ce à dire qu'un taux de 1,9 de LDL qui serait retrouvé à l'âge de 55-60 ans ne mérite pas forcément un traitement si on a la notion qu'il n'était pas aussi élevé précédemment ?
La réponse, c'est qu'en fait, on utilise le score, on utilise des outils d'appréciation globale du risque cardiovasculaire et que ce sont ces outils-là qui nous disent si on traite ou si on ne traite pas. Donc autrement dit, le même taux de cholestérol à deux moments différents de la vie ne va pas être considéré de la même façon parce que le risque d'avoir une mort dans les 10 ans en fonction de la tension, de l'âge, le sexe, ça ne change pas, et du cholestérol va être différent. Autrement dit, un œuf à 100 formes familiales à 35 ans, déjà ce n'est pas facile à diagnostiquer parce qu'on conseille de le faire à partir de 40. Et donc imaginons, 1,9 de cholestérol à 40 ans, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas ? Eh bien, on regarde l'ensemble du risque cardiovasculaire global pour décider.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne traite pas. C'est qu'on fait d'abord une prévention par des règles hygiéno-diététiques bien conduites avant d'envisager un traitement. Ça, c'est en deuxième ligne, là, cette fois-ci. Hein. Contrairement à quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, où là, il y a déjà eu un problème sérieux.
Alors, le taux de LDL, alors vous avez raison, le taux de LDL, il peut augmenter par plusieurs problèmes de santé qui ne sont pas l'expression uniquement d'un problème du cholestérol, du métabolisme du cholestérol. Donc, quand vous avez une hypothyroïdie, que votre thyroïde ne marche pas normalement, vous avez une élévation du LDL cholestérol. Lorsque vous avez une insuffisance rénale, et notamment quand vous avez beaucoup de protéines dans les urines, vous avez le risque d'avoir une élévation de votre LDL cholestérol. Lorsque vous avez ces deux causes-là, c'est du super standard. J'ai plus en tête tout le reste. Alors l'insuffisance hépatique, en général, ça fait diminuer votre taux de cholestérol, ça ne le fait pas augmenter. Le pancréas, il n'est pas tout à fait neutre dans cette histoire-là, mais le diabète fait effectivement partie des causes, mais ça ne donne pas des hypercholestérolémies pures, en fait. Mais insuffisance rénale, augmentation de la protéinurie, hypothyroïdie, ça, puis certains médicaments, ça peut vraiment donner une augmentation du LDL cholestérol indépendamment du métabolisme direct du cholestérol.
On arrive à 22h30, c'est l'heure habituelle à laquelle on clôt nos conférences. Donc
ma voiture se transforme en citron.
Voilà. Donc bonsoir à tous. Merci aux intervenants pour toutes leurs explications. Voilà, mieux qu'Arte. Et puis, donc des publications donc, à la sortie de la salle. Autrement, n'hésitez pas à aller voir M. Vercoustre si vous voulez d'autres informations sur l'association La Nette. Et puis, bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci.